Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube.ca. Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Un jeune adulte de 19 ans aurait poignardé 3 membres de sa famille. Un véritable carnage qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui dans le quartier Rosemont. Les corps ont été découverts dans un duplex à Montréal vendredi matin. Le suspect a été arrêté et il était connu pour des problématiques de santé mentale. On en parle avec André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Bonjour André.
Salut Yasmine.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce dossier-là?
Écoute, pour l'instant, on a quand même des éléments assez fragmentaires. On sait qu'il y a 3 victimes. On sait qu'il y a un suspect là, d'âge quand même assez jeune, un jeune adulte qui aurait été arrêté, possiblement armé d'un couteau. Les policiers ont dû là, le maîtriser avec du poivre de Cayenne. Il semblerait qu'il était lui-même couvert de sang. Et qu'il y aurait 3 personnes adultes là, qui auraient été vraisemblablement assassinées à l'aide d'un couteau. Est-ce que l'individu arrêté, c'est effectivement lui là qui a commis les crimes? Bon, on peut s'en douter, mais c'est sûr et certain que là, c'est l'interrogatoire et l'étude de la scène et rencontrer les témoins qui va pouvoir venir confirmer ça.
Bien, parlons-en de la scène. D'après les premières informations qui ont été publiées, les corps des victimes auraient été trouvés tantôt à l'intérieur, un corps à l'extérieur. Comment on approche une telle scène de crime lorsque c'est aussi sanglant?
Ben, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect opérationnel, c'est-à-dire les premiers policiers qui se rendent sur les lieux, qui eux, évidemment, c'est un appel qui est traité là en priorité numéro 1. Les policiers vont faire une approche sécuritaire, ils vont obtenir un peu d'informations de la personne ou des personnes qui ont signalé. Des fois, ça peut être des personnes à l'intérieur, des fois, ça peut être des personnes à l'extérieur. Par la suite, la première priorité, c'est d'assurer le contrôle du suspect pour, un, s'assurer de notre sécurité, puis aussi pouvoir aller secourir les personnes là, qui sont en danger, blessées. Par la suite, un coup que l'individu est sécurisé, on secourt les blessés et aussi par la suite, on protège la scène de crime. Bon, c'est ce qui nous amène à la deuxième étape, plutôt au niveau de l'enquête. La scène de crime, ce qui est difficile dans une situation comme ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont pu pénétrer à l'intérieur, que ce soit des gens d'urgence santé, que ce soit des médecins, que ce soit des policiers. Et ça, on n'a pas le choix, malheureusement. Faut vivre avec cette contamination-là. Et c'est pourquoi, des fois, on voit des images d'une scène de crime, puis on voit encore les pansements qui traînent par terre, des choses comme ça. Il n'y a pas de ménage qui se fait tant et aussi longtemps que les spécialistes d'identité, les enquêteurs, n'ont pas passé au travers. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une scène de crime va nous parler. Il y a des projections de sang qui peuvent nous indiquer à quel endroit le crime a été commis ou certains crimes ont été commis. Il y a un paquet de choses comme ça qui vient nous donner de l'information, qui va, un, nous permettre de mettre un peu les choses dans l'ordre, de comprendre la séquence des événements, et aussi va venir alimenter en vue de faire l'interrogatoire du suspect.
Quand on reçoit un appel qui rentre par le 911, par exemple, faisant état de quelqu'un qui d'une problématique comme celle-ci, quelles sont les décisions qui sont prises par les policiers pour avoir le bon matériel, le bon nombre de personnes et la manière avec laquelle on approche la scène?
Bien, en premier lieu, il faut comprendre que l'appel va rentrer au niveau du 911, puis après ça, va être acheminé à la répartition. Bon, dépendamment des informations disponibles puis du niveau de dangerosité qui va être évalué à la base, c'est sûr que la répartition va envoyer soit un véhicule du haut ou 2 ou 3 véhicules du haut, là, dépendamment de ce qui est disponible puis de l'information qu'on a. C'est sûr que les policiers, des fois, vont tenter de contacter le plaignant parce que là, mettons qu'on émet l'hypothèse que c'est un voisin qui entendait des cris, mais c'est sûr qu'on peut réussir à communiquer avec le plaignant en s'en allant pour essayer de grappiller le plus d'informations possible qui va justement nous aider à planifier de façon sécuritaire notre intervention, mais c'est sûr que d'emblée, lorsqu'on sait que quelqu'un est armé d'un couteau puis il y a des personnes qui sont blessées à coups de couteau, bien, c'est sûr et certain que les policiers se préparent au pire. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est armé d'un couteau, ben c'est sûr et certain que au minimum, les armes intermédiaires sont envisagées et ultimement, ça peut être l'arme à feu, mais tout va dépendre aussi du niveau de collaboration de la personne et de la capacité qu'on va avoir d'établir un contact avec elle.
À quel point est-ce important, puis comment les policiers font en sorte de pouvoir récupérer le suspect, ou appréhender la personne qui reste sur les lieux de manière à ce que sans finalement attenter à sa vie?
Ben, tu sais, à un moment donné, là, ce que les gens faut qu'ils comprennent, là, c'est que nous, là, on contrôle pas tout. On peut essayer de le contrôler du mieux qu'on peut, mais quelqu'un, exemple, puis ça veut pas dire que c'est le cas présentement, parce que là, de toute évidence, là, il y a pas eu d'effusion de sang lors de la maîtrise du suspect, mais en général, c'est un peu le comportement du suspect qui va dicter nos interventions. On peut essayer de le calmer, on peut essayer de rentrer en contact avec lui, on va le localiser, on va l'isoler, on va essayer de le contrôler dans un endroit pour en prendre le contrôle par la suite. Mais encore une fois, tout va dépendre de ses agissements et malgré toutes les techniques et la formation qui peut exister, quelqu'un qui est plus en contact avec la réalité, qui est en crise, ben, faut comprendre que même s'il y avait un psychiatre à côté de nous autres, il réussirait probablement pas plus à rentrer en contact avec lui. Mais c'est sûr que nous, on recherche toujours la résolution pacifique et sans effusion de sang. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix de réagir face à la menace si toutes nos tentatives et nos techniques ne fonctionnent pas pour en arriver à une résolution là, vraiment sont pacifiques, comme je te l'explique.
Ce que je me demandais, c'est les policiers qui sont rentrés, là, les premiers ouais. à être rentrés là-dedans. Là. C'est pas facile. Là. Les policiers, c'est des êtres humains avant tout, puis c'est des pères et des mères de famille. Comment s'assurer que les policiers aillent bien après ça?
Bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appel comme ça, c'est épouvantable. On s'en va là-dessus avec l'adrénaline là, au plafond, ça c'est clair, parce que notre but ultime, c'est pas juste d'arrêter le suspect, mais c'est d'arriver à temps puis de sauver des vies. Et ça c'est vraiment là ce qui nous anime le plus. Et là, quand on rentre souvent, ben là, on fait face au carnage. Moi, ça m'est déjà arrivé un événement comme ça. Heureusement, les gens n'étaient pas décédés. C'était un fils qui était schizophrène, qui avait poignardé son père et sa mère. Et je peux te dire que l'impression que j'avais, c'est que quelqu'un avait lancé du sang sur les murs avec une chaudière. C'est vraiment, là, tu sors des fois d'appels comme ça, puis tu vas nettoyer tes bottes avec un boyau d'arrosage parce qu'il y a du sang partout. Puis là, il faut comprendre aussi, selon les informations qu'on a, le gars était plein de sang. Fait que donc, il y a des dangers de contamination parce qu'on connaît pas son état de santé. Fait que c'est assez terrible parce que ce sont des images qui peuvent venir nous hanter encore par la suite mais pendant bien des jours, bien des semaines. Puis tu sais, on se rappellera l'événement assez tragique, là, très tragique là, de Guy Turcotte qui avait littéralement assassiné ses
bien
enfants.
Sûr.
Ben, il y a un policier qui n'a pas pu vivre avec le souvenir de ce qu'il a vu, puis il s'est suicidé plusieurs années après. Fait que donc, dans des cas comme ça, on est quand même assez bien soutenu. Aujourd'hui, il y a le programme d'aide aux employés qui peut même se déplacer sur les lieux. Et par la suite, il y a des rencontres qui peuvent être organisées avec les policiers qui en ressentent le besoin. Mais encore une fois, c'est des images épouvantables. C'est épouvantable pour les témoins, les gens qui l'ont vécu, mais ça l'est tout autant aussi pour les policiers qui arrivent sur les lieux. Parce que même si on est entraîné, même si on est sélectionné, qu'on a des caractéristiques de caractère qui nous permettent de survivre à ça, il en demeure pas moins qu'il n'y a aucun entraînement qui peut nous préparer au pire.
Espérons que les policiers et tous les premiers répondants, parce que les paramédics aussi, qui sont les premiers
oui,
à être là, ils peuvent vivre des moments de détresse suite à des événements comme ça. C'est des êtres humains. Et c'est pas parce que ce sont des personnes qui vivent toujours sur l'adrénaline qu'ils ont des capacités surhumaines pour faire face au drame puis de vivre avec, là. Important d'aller chercher l'aide nécessaire pour passer à travers puis de s'assurer que ça ne nous marque pas pour le restant de nos jours. André Gélinas, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Pareillement. Bonne journée, j'espère.
Bonne journée. Bye.